Bonjour tout le monde. Est-ce que vous êtes réveillés? On a un beau sujet encore ce matin. On continue notre série sur le cantique des cantiques. J'espère qu'on a piqué un peu votre curiosité la semaine dernière, oui? Intéressant, hein? Il y a vraiment des belles leçons à apprendre de ce livre-là. On va avancer ensemble dans le livre. Avant d'aller dans un mot de prière, je veux juste introduire le passage de ce matin. On a une petite mise en scène ici avec nos deux amoureux qui vont nous lire ces poèmes d'amour. On est dans le cantique des cantiques. Inquiétez-vous pas, ils sont mariés. Fait que tout ce qu'ils vont dire, c'est... Mais simplement pour que vous suiviez bien le récit, le passage de ce matin se divise vraiment en deux sections, d'accord, pour bien comprendre. Alors la première partie, qui est jusqu'à la fin du chapitre 2, on est dans une espèce de jeu amoureux. Entre les deux amoureux, d'accord? Et lorsqu'on va dans la deuxième partie, le chapitre 3, c'est un rêve qui nous est raconté, d'accord? Au début, si vous êtes attentif au texte, on va voir où ça se passe la nuit. Et donc, la jeune fille, l'amoureuse, va rêver. Et tout ce qui s'ensuit se passe dans son rêve. On va revenir à ça tout à l'heure, mais ça va vous aider à comprendre un petit peu l'histoire qui se déroule là, d'accord? On va aller ensemble dans un mot de prière. Père éternel, on veut venir devant toi pour te demander de venir nous rencontrer ce matin. On est dans un livre spécial, Seigneur, parce que ça parle tellement d'amour. Et souvent, Seigneur, on veut parler de toi. On est ici pour t'adorer. On est ici pour parler de ta gloire. Et là, on parle d'amour entre un homme et une femme, Seigneur. Mais Père, c'est notre désir profond que tout ce que nous sommes, dans notre vie intime, dans notre vie publique. Nous croyons, Seigneur, comme créature de Dieu, qu'on est là pour refléter ta gloire, pour parler de toi à travers nos relations, nos attitudes, nos comportements, Seigneur. Et nous voulons que notre épouse, notre époux, nos enfants, les gens qui nous entourent, nos collègues de travail, nos amis, à travers notre vie, Seigneur, te vois et te découvre. Alors viens ce matin nous enseigner sur l'amour, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. On va écouter la parole de Dieu.
Le passage biblique de ce matin est tiré du Cantique des Cantiques, du chapitre 2, verset 8, au chapitre 3, verset 5 de l'édition Louis II. Alors, Cantique des Cantiques. Du chapitre 2, verset 8, au chapitre 3, verset 5.
C'est la voix de mon bien-aimé. Le voici, il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Mon bien-aimé est semblable à la gazelle ou au fan des biches. Le voici, il est derrière notre mur. Il regarde par la fenêtre, il regarde par le treillis. Mon bien-aimé parle et me dit
« Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Car voici, l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée. Les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé, et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier embaume ses fruits, et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs.
Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Il fait paître son troupeau parmi les lys. Avant que le jour se rafraîchisse et que les ombres fuient, reviens. Sois semblable, mon bien-aimé, à la gazelle ou au fan des biches sur les montagnes qui nous séparent. Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je me lèverai, je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je passés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi. Je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçue.
Je vous en conjure, fille de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille.
Merci. Ils sont vraiment courageux, hein? Les amoureux. La parole de Dieu est fantastique. C'est incroyable que Dieu ait mis ce livre-là dans la Bible. Non? L'amour rend fou. C'est vrai? L'amour rend fou. Moi, je pense que ça doit être comme ça. Il y a quelque chose de profondément irrationnel dans l'amour qui nous fait faire des choses qui dépassent la raison, qui nous amène à faire des folies. Je me rappelle d'avoir dansé sous la pluie le soir, très tard, avec Esther. Il y a plusieurs autres folies que je vais garder pour nous deux. Mais l'amour rend fou, c'est vrai. Puis quand je dis que l'amour rend fou, je ne parle pas juste de l'amour entre deux amoureux. Je parle de toutes les expressions de l'amour. L'amour d'un père et d'une mère pour leur enfant, qui va les conduire à aimer toujours, à aimer encore, à aimer comme on aime un fils prodigue qui revient à la maison après qu'il y a eu tellement de blessures puis tellement de déceptions parce que ça n'allait pas dans sa vie. L'amour nous pousse à faire des sacrifices, à nous oublier nous-mêmes, à nous donner entièrement. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour les hommes, c'est fou. Essayez d'expliquer ça rationnellement, cette idée-là que Dieu a créé l'humanité, une humanité qui en a tellement rien à cirer de Dieu, tellement pas intéressée vraiment à le connaître ou si peu, et qui envoie son Fils. Et que ce fils-là, qui était dans cette parfaite communion avec son Père, vienne mourir sur la croix pour prendre nos péchés sur lui. Ce qui faisait de lui, aux yeux de Dieu, faisait de lui le péché même. Ça poussait Christ à s'écrier puis à dire « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » C'est irrationnel, il me semble, de poser un acte semblable pour des êtres qui n'aimaient pas profondément Dieu. L'amour de Dieu pour toi et moi, c'est complètement fou. L'amour rend fou. L'amour est fou. Et je pense que ça doit être comme ça. Et je crois que c'est entre autres ça que Dieu est en train de nous dire à travers ce passage-là, c'est que cette douce folie qu'on trouve dans l'amour doit être présente. Elle doit être présente dans cette relation. Et je fais juste une parenthèse, je ne suis pas en train de parler de crimes passionnels, vous comprenez? Je ne suis pas en train de parler de ce qu'on appellerait comme de l'amour, une possessivité maladive qui conduit des fois à la violence, d'accord? Ce n'est pas de l'amour, ça. Ce n'est pas de ça que je parle. Pas du tout. Mais l'amour est composé de cette espèce de douce folie qui est là, qui envahit le cœur amoureux, puis qui met une folie dans la relation. Et je pense que c'est pas pour rien que Dieu a décidé de nous donner cette espèce d'hymne à l'amour-là sous une forme poétique. Parce que la poésie, c'est une belle manière de dire la folie de l'amour. C'est une belle manière de dire que dans l'amour, il doit y avoir de la beauté, il doit y avoir des fioritures, du fla-fla autour de tout ça. Il doit y avoir quelque chose qui vient mettre un doux parfum. C'est comme ça, tout le moins, que Dieu voit l'amour. Dieu voit l'amour comme quelque chose d'extrêmement poétique. Alors, je veux juste vous rappeler, avant de se lancer dans le passage de ce matin, j'ai mentionné la semaine dernière, mais c'est plus facile de comprendre le Cantique des Cantiques si on le voit comme un recueil de poèmes d'amour, d'accord? Et c'est comme ça que je le comprends. Une anthologie de poèmes amoureux, un recueil de poèmes amoureux pour lequel j'ai pas besoin nécessairement de voir une construction très, très suivie d'un poème à l'autre. C'est même difficile de déterminer exactement combien de poèmes il y a dedans. D'accord? Alors, si vous le prenez comme ça, il y a une certaine structure à travers tout le livre. Vous allez voir à travers la série de messages, d'exposés bibliques, vous allez voir aussi une certaine structure. Mais en même temps, c'est un recueil de poèmes. Autre chose aussi que je veux rappeler, c'est que je crois qu'il n'a pas été écrit pour qu'on puisse identifier des personnages historiques dedans. Je pense que vous faites erreur si vous vous époumonez, si vous vous efforcez à identifier, OK, c'est qui la fille? C'est qui le gars? Puis là, oups, il y en a un autre qui semble intervenir. Ça a été écrit davantage pour que les amoureux de tout temps puissent s'identifier à ce passage-là. Alors, une bonne question qui m'a été posée cette semaine. J'ai aimé ça, les réactions, les questions, tout ça, les échanges qu'on a eus. Une bonne question, c'est oui, mais c'est quand même introduit comme un cantique de Salomon, tu sais. Puis Salomon, ben, en termes de maître de l'amour, disons que, tu sais, un roi nous dit que Salomon eut 700 femmes et 300 concubines. Fait que veux-tu me dire qu'est-ce qu'il comprenait à l'amour, ce gars-là? C'est une excellente question. Excellente question. Je vais y revenir, d'accord? La semaine dernière, j'ai passé beaucoup de temps à introduire le Cantique des Cantiques, puis on était peu dans le texte. Je vais aller un peu plus dans le texte, mais je vais y revenir. Puis je pense que c'est une question importante de laquelle on a aussi des leçons importantes à apprendre sur l'amour. Alors, je reviens sur cette question-là. Mais gardez à l'esprit qu'on parle d'un recueil de poèmes amoureux avec des personnages essentiellement fictifs auxquels on est appelé à s'identifier nous-mêmes pour apprendre et célébrer l'amour. Si j'avais eu un sous-titre à donner à ce message-là, je l'aurais appelé « Jeu et douleur de l'amour ».« Jeu et douleur de l'amour ». Ce matin, on va voir ensemble, et on pourrait résumer comme ça ce que je vous partage ce matin. L'amour n'est qu'une sorte de folie. Il demande, je pourrais dire, il exige qu'on se prête à son jeu. Mais attention, l'amour peut aussi rendre fou. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction à la lecture, je vois vraiment deux parties dans ce passage-là. Je vais prendre mon texte ici. Je vois vraiment deux parties dans ce passage-là. Une espèce de jeu amoureux entre nos amoureux, toute la suite du chapitre 2, du verset 8 jusqu'à la fin, au verset 17. Puis dans la deuxième partie, on va passer à un rêve, d'accord? Alors, gardez ça à l'esprit pour comprendre le genre d'observation, le genre de choses qu'on peut apprendre de tout ça. Dans la première partie, on assiste à un jeu amoureux. Pourquoi est-ce que je dis qu'il y a un jeu? C'est parce qu'il y a un mouvement dedans. Il y a de l'anticipation, il y a une attente. L'amoureuse attend son amoureux. Ensuite de ça, il va y avoir une invitation. L'amoureuse se présente, puis il l'invite à venir avec elle. Mais on va voir un petit peu plus loin qu'elle semble disparaître et puis se laisser se faire désirer. Il y a une absence de l'amoureuse après qu'elle ait été invitée. Et ce cycle-là se termine avec une affirmation de l'amour. Anticipation, invitation, absence ou se laisser désirer, se faire désirer, et puis affirmation de l'amour. Et Dieu est en train de nous dire que ça fait partie de l'amour. On pourrait voir ça en se disant, ben Salomon, peu importe, il a écrit ça parce qu'il a vu deux amoureux où il a lui-même vécu un premier amour, où il y a toute cette espèce de folie-là complètement enlevante. Puis oui, au début, c'est vrai. Quand j'allais chercher Esther avec ma voiture, puis j'étais un preux chevalier avec mon Vaux noir qui allait enlever ma belle, tu sais. Puis je cognais à la porte, puis je checkais par la fenêtre pour voir quand est-ce qu'elle allait arriver, puis tout ça. Puis donc, on pourrait voir ça comme juste une observation des premiers moments de l'amour. Mais bon, les années passent, puis on se voit en jaquette, puis on m'en allait dire en bobette. Mais vous savez quoi, sérieusement? Pour qu'après 20 ans, 30 ans, 40 ans de mariage, de vie commune, il y ait encore des « je t'aime » bien sentis. Qu'il y ait encore un regard qui est spécial pour l'unique, celle que j'ai choisie, celle qui m'a choisi. Je crois vraiment que ça va changer, on s'entend. Mais je crois vraiment qu'il doit l'anticipation, l'invitation, se laisser désirer un peu et affirmer notre amour doit faire partie de la relation. Pour qu'après 20 ans, 30 ans, 40 ans de mariage, et les couples que vous connaissez et que vous regardez puis vous dites, eux autres, ça fait 25 ans qu'ils sont mariés et ils sont encore amoureux. C'est parce qu'à quelque part, vous sentez encore ce jeu-là qui est présent dans leur amour, dans leur relation. N'oubliez jamais que Dieu nous offre le Cantique des Cantiques comme une célébration de l'amour. Alors, allons dans le texte un petit peu ensemble pour voir cette douce folie qui est là. Les versets 8 et 9, on trouve l'amoureuse qui est dans l'attente. C'est la voix de mon bien-aimé, le voici, il vient. Bon, vous dites, t'es folle et jeune, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. À un moment donné, ça saute moins haut, tu sais. Mon bien-aimé est semblable à la gazelle et au fond des biches. Peut-être pas, après 30 ans, 40 ans. Le voici, il est derrière notre mur, il regarde par la fenêtre, il regarde par le treillis. Mais il y a cette belle anticipation, cette attente de l'autre. Je disais à mon épouse, on réfléchissait sur le passage, puis je lui disais, en réalité, c'est quelque chose qui va être présent dans tous les rapports humains qui sont sains. Les parents qui ont eu des jeunes enfants, vous vous rappelez peut-être quand les enfants ont commencé à parler, puis à courir, puis tu rentres à la maison, puis tu rouvres la porte, puis là, qu'est-ce que tu entends? Papa! Puis là, ils partent à courir. C'est quoi ça? C'est cette anticipation-là de dire, wow! Et d'une amitié où on retrouve l'autre, puis il y a eu cette attente-là. On est content de passer ce temps-là ensemble. Lundi, je suis allé marcher avec un de mes amis aux îles de Boucherville, puis juste de se retrouver, on attendait ce moment-là où on allait être ensemble. Voyez-vous, tous les rapports humains qui vont être vraiment sains, où il va y avoir une profondeur dans leur relation, il va y avoir cette anticipation-là, à plus forte raison dans cette relation avec celui qui est promis, celle qui est promise. Et donc, cette anticipation-là, cette attente de l'autre, doit être cultivée, je dois la garder. Au début, lorsque le coup de foudre, elle est peut-être automatique, je n'ai même pas besoin de la réfléchir. Avec les années, elle va avoir besoin que je me rappelle, que je pense à l'autre. Ce qui est intéressant, qui paraît malheureusement pas dans ma traduction en français, c'est que lorsqu'on arrive au verset 10, elle parle au passé. Mon bien-aimé me parlait ainsi et me disait. Et c'est vraiment ça qu'on a dans le texte dans l'hébreu. Et donc, cette amoureuse-là se rappelle de ça parce que ça éveille encore son amour. Et si cette anticipation-là n'est pas cultivée, on prend l'autre pour acquis à un certain moment donné. Mais je veux attendre ce moment-là. Je veux dire à mon épouse quand je suis sur le chemin du retour puis je lui parle sur mon cellulaire, ah, « Chérie, je m'en viens, j'ai hâte de te voir. » J'ai hâte de te voir. Elle a besoin de le sentir, ça. Et j'ai besoin de le sentir de sa part. Puis ça demande un effort parce que le train-train du quotidien vient facilement aplanir tout ça. Mais après l'anticipation, il y a l'invitation, verset 10 à 13. Mon bien-aimé me parle et me dit, « Lève-toi, mon ami, ma belle, viens. » C'est vraiment intéressant parce qu'il va la chercher chez elle et il l'amène ailleurs. Est-ce que vous voyez ça? Il l'amène dans des champs, il l'amène dans des prés. Elle est dans sa maison, il va la chercher là et il l'amène ailleurs. Parce que cette invitation-là à l'amour, c'est une invitation à sortir du quotidien, à sortir de ma maison pour aller avec lui. Et ça doit être cultivé dans l'amour. Je ne parle pas nécessairement de sortir de la maison, vous comprenez? Mais sortir du quotidien, il doit y avoir cette invitation. Où je dis, chérie, viens vers moi, viens avec moi. Je veux te parler encore d'amour, je veux te parler encore, te dire encore que je t'aime. C'est vraiment intéressant ce que l'amoureux fait dans le passage ici. Il va dans des champs, il va dans des prés, puis c'est comme s'il lui raconte ce qu'il voit, mais il l'interprète poétiquement. Car voici, l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée. Ouais, c'est les saisons qui passent, OK, mais encore. Les fleurs paraissent sur la terre tous les printemps, mon homme. Oui, mais ça me parle de toi. Ça me parle de notre relation. L'amoureux ici est en train de lire la vie autrement que simplement comme une information. Parce qu'il est en train de dire, viens avec moi, on va aller marcher ensemble. Et ces arbres-là qui sont juste des arbres pour tout le monde, ce sont les arbres qui nous accompagnent aujourd'hui. Et ça, ça se vit dans une shop, ça se vit dans une maison, dans le train-train quotidien, ou simplement, je viens dire à mon amoureuse, viens chérie, on va aller prendre une marche ensemble. Puis on passe devant les mêmes maisons qui sont juste des maisons. Mais pour nous, ce sont pas simplement des maisons du quartier. C'est les maisons qui accompagnent notre marche, qui accompagnent ce moment où on est ensemble. Et l'amour demande l'anticipation, mais l'invitation, puis que je raconte la vie autrement à mon amoureuse, que je lui dise, tu te rappelles les années, tu te rappelles les enfants. Aujourd'hui, je suis content de marcher avec toi. Mon épouse, ton époux, a besoin que tu lui dises que pour toi, le quotidien n'est pas ordinaire parce que tu le vis avec lui. Et c'est ça qu'il est en train de faire ici. Il parle de choses simples de la vie, mais il le raconte autrement. Il lui dit, viens, sortons ensemble du quotidien. Il y a une espèce de jeu drôle qui apparaît. On arrive au verset 14, puis je veux dire, elle l'a attendu. Elle veut-tu le voir, elle veut pas le voir? Elle l'a attendu, elle désirait son arrivée. Il l'invite à s'en venir, puis on arrive au verset 14. « Ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées, fais-moi voir ta figure. » Hop, elle est disparue, comme une colombe qui est allée se cacher. Et il y a une espèce de jeu amoureux qui est là où elle se fait désirer. Puis on pourrait dire, bon, mais c'est beau, là, ça, OK, c'est correct, Shakespeare, on est en train de courir dans des prés, puis tout va bien. Mais je veux dire, dans le livre des Proverbes, il va être dit, par exemple, pour l'amitié, va pas trop souvent chez ton ami, va pas trop souvent chez ton voisin, de peur qu'à un certain moment donné, il se lasse de ta présence. C'est bien de pas toujours être là pour te laisser désirer un peu. Et donc, si c'est vrai dans mon rapport avec mes amis, avec la famille aussi, je suis toujours là, peut-être qu'à un moment donné, ils vont dire, ben, ce sera le fun, tu sais, qu'il ne soit pas là aujourd'hui. C'est d'autant plus vrai dans l'amour où il doit y avoir cette espèce de jeu-là. C'est pas vrai que c'est juste vrai, c'est juste bon pour la jeunesse puis le début de la relation amoureuse. Je veux avoir cette espèce de coquinerie dans ma relation puis je dois jouer ce jeu-là. Je dois jouer ce jeu-là. Soyez pas drame quand tout d'un coup, votre amoureux, tu sais, cessait, puis il est gauche, puis... C'est pas le temps. Oui, c'est le temps, c'est toujours le temps. S'il y a plein de bonne volonté, c'est toujours le temps. Si elle veut jouer un peu à l'amour, c'est toujours le temps. Il doit y avoir cette folie-là qui est cultivée. Autrement, le quotidien puis les soucis du quotidien viennent enlever de la poésie. Mais pour que cette folie-là soit là, tout ce que ça demande, c'est que je désire être avec mon épouse, que j'anticipe ce moment où on va se retrouver. Tout ce que ça demande, c'est que je l'invite à ce qu'on soit ensemble. Tout ce que ça demande, c'est que je lui raconte le quotidien autrement. Que je lui dise, pour moi, tout ça, c'est pas juste ordinaire, parce que c'est avec toi. C'est avec toi qu'on vit ces choses-là. Ça demande ces jeux où je veux aller vers elle, puis elle se fait désirer un peu. Je pense que oui. Je pense que oui. Parce que lorsqu'on cultive ça, il y a cette espèce de flamme-là. Cet été, on était en vacances avec... C'est drôle, les enfants vieillissent. Hey, je ne leur ai pas demandé la permission pour compter ça. Je les nommerai pas. Je ne dirais pas c'est lequel des deux. Mais on a eu des vacances avec un, puis après ça, des vacances avec l'autre, parce qu'ils vieillissent, puis les camps chrétiens, puis tout le kit. Mais à un moment donné, il y a un des deux enfants qui a dit, « Ben c'est le fun, les vacances avec vous deux, mais tu sais, comme... Je suis avec deux amoureux, là. » Dans le fond, il est en train de nous dire, « Ben, des fois, je me sens un petit peu de trop. Hey, » c'est une bonne chose, ça. C'est le fun d'entendre ça. La bouche de tes ados. Hey, les amoureux, vous lâchez-vous, je suis là. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Après 20-quelques années de mariage, que ce soit comme ça. Je pense que c'est très bon. Et ce cycle-là se termine par quelque chose qui est super important. L'affirmation de notre amour. versets 16 et 17. « Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Il fait paître son troupeau parmi les lys. » Tous les jeux auxquels on peut jouer dans l'amour pour exprimer le fait qu'on se désire l'un l'autre puis on veut être ensemble ne doivent jamais prendre la place de cette affirmation de notre amour mutuel. Chérie, je suis à toi et tu es à moi. Et dans mon cœur, il n'y a que toi. Et ça, ce sont les jeux de l'amour, où il y a ses présences, ses invitations et ses absences. L'amour doit cultiver cette belle folie-là. Mais des fois, l'amour rend fou aussi. Et si ces petites absences-là, ces petits jeux-là peuvent être super sains, super agréables, cette douce folie, l'absence véritable dans l'amour, ça ne va pas très bien ensemble. L'absence, la distance, les silences qui durent, les replis sur soi sont difficiles et lourds en amour. Puis c'est vraiment intéressant, c'est pour ça que je vous dis, c'est comme une anthologie, on passe d'un sentiment à un autre complètement. Et là, on trouve cette amoureuse-là qui, en réalité, si j'avais une trame, si j'avais une histoire à définir dans le Cantique des Cantiques, ils ne sont pas encore mariés. La noce, c'est la semaine prochaine en passant. Vous êtes tous invités. Mais c'est dans la suite du texte, d'accord? Donc, on n'est pas rendu là encore, ils ne sont pas encore mariés. Puis, elle commence au chapitre 3 en disant « Sur ma couche pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. » Et là, on va vraiment dans un autre champ émotif complètement. Il y a une espèce d'angoisse qui va envahir cette jeune amoureuse-là parce que l'absence devient lourde. Et donc, si dans les jeux amoureux, le fait de se faire désirer, ces petites absences-là sont très saines, l'absence, la distance, le silence, l'absence réelle, physique, mais des fois simplement en étant présent, c'est très, très lourd à porter en amour parce qu'on a besoin de sentir que l'autre est présent. C'est vrai que c'est très demandant, l'amour. C'est vrai que c'est très demandant. L'amour qui dure, l'amour véritable, vit très mal avec l'absence de l'autre. L'absence physique réelle. Mais l'absence, alors qu'il est présent, des fois, c'est bien pire encore. Bien pire encore. Et dans ce passage-là, on voit que l'absence en amour inquiète et ronge. Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Parce que lorsque t'aimes, il y a un vide que tu veux combler par la présence de l'autre. Il y a un vide que tu veux combler. Et donc, l'absence en amour inquiète et ronge. Et les couples ne devraient pas être absents, séparés l'un de l'autre trop longtemps physiquement, par toutes sortes de situations avec le travail, tout ça. Notre cœur commence à se poser des questions, devient inquiet, ça nous gruge à l'intérieur. Mais lorsqu'il y a une absence, une distance qui se crée à l'intérieur même du foyer, ça produit exactement la même chose. Il y a de l'inquiétude, il y a « qu'est-ce qui se passe? T'es là, mais t'es pas là. Je sens que tu es absent. Je te cherche, t'as beau être là, je ne te trouve pas. » Et ça nourrit de l'inquiétude et ça nous ronge. Les versets 2 et 3, l'absence nous fait imaginer le pire. Je me lèverai et je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? Ce qui me fait dire, moi aussi, que c'est un rêve qui est là, c'est que c'est fou là, ce qu'il est en train de nous dire. Là. En pleine nuit, vous avez une jeune femme qui va sortir, qui va courir dans la ville. Écoutez, déjà, à notre époque, c'est peut-être pas safe. Mais là, à cette époque-là, on est ailleurs. Puis là, elle accroche les gardes, elle voit des policiers. « Avez-vous vu mon amoureux? » Ben là, c'est qui? Carte d'identité? On va lancer une recherche, si tu veux. Elle présume qu'ils le connaissent. Elle est en train de rêver, voyez-vous. Elle est en train de rêver à ce moment-là. Et là, lorsqu'il y a de l'absence, de la distance, du silence qui s'installe dans un couple, à un certain moment donné, Notre cœur commence à imaginer le pire. À l'intérieur de nous-mêmes, on commence à déraisonner. Comme cette jeune fille-là, amoureuse, qui dit, je vais me lever la nuit, je vais partir à sa recherche, je vais le trouver, je vais mettre la police là-dessus. Elle est en train de déraisonner parce qu'elle est en train d'imaginer le pire. Est-ce qu'il est avec une autre? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il ne m'aime plus? Est-ce qu'il n'est plus là? L'absence de l'autre prolongée en amour, où il n'y a pas cette retrouvaille, où on est en train de dialoguer ensemble, on est en train de jouer l'amour ensemble, on est en train d'affirmer l'amour ensemble, inquiète puis nous amène à imaginer le pire après. Et comme c'est dans un rêve, elle imagine qu'elle le retrouve, puis là, elle imagine qu'elle le conduit. Puis là, on est vraiment dans l'intimité sexuelle, dans le passage. Mais ce que je vois dans ça ici, je vais lire le passage, ce que je vois dans ça ici, c'est que l'absence nous amène à fantasmer l'amour, à l'imaginer autre que ce qu'il est. Et il y a aussi tout un danger dans ça. Verset 4, « À peine les avais-je passés, que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi, je ne l'ai point lâché, jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. » Et clairement, c'est une allusion à... Ils sont allés, ils se sont retrouvés, ils ont eu une relation sexuelle ensemble. Elle est dans son rêve. Mais dans son rêve, elle commence avec un sentiment d'inquiétude. Il n'est pas là. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'il est? Elle déraisonne. Elle dit, je vais aller dans la nuit, je vais aller le chercher dans les rues, je vais le trouver parce que je suis inquiète, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec lui. Je vais le ramener à la maison. Puis dans son rêve, elle fantasme le retour, les retrouvailles. Dans son rêve. Parce que l'absence nous amène à fantasmer l'amour, à le rêver autrement. Et là aussi, il y a un piège dans ces absences dans l'amour, où à un certain moment donné, je commence à rêver de ce que l'amour devrait être, au lieu de concrètement me retrouver avec mon amoureuse, avec mon amoureux, et de cultiver cet amour-là. Parce que l'amour n'est pas toujours comme dans les rêves. Il demande que j'y mette mon cœur pour qu'il soit beau et qu'il garde de la poésie. Il me demande de m'investir. Mais je vois aussi dans le fait que dans son rêve, il se retrouve, puis elle le conduit, et puis littéralement, il se retrouve intimement, sexuellement. L'absence prolongée, la distance, demande à être résolue. L'absence demande à être rassurée. Et donc, ces absences-là, on les vit dans nos couples. On le vit dans le mariage. Pour toutes sortes de raisons, parce qu'il se passe des choses, parce que des fois, c'est même pas entre nous. C'est juste la vie qui est pesante, qui est occupée. On est occupé, l'esprit est ailleurs. Puis il y a une distance, il y a une absence qui s'installe. Puis ça ouvre la place à de l'inquiétude, à ce que... On commence à rêver, on commence à être ailleurs. Ça demande à être résolu, ça. Ça demande à ce qu'on se retrouve, à ce qu'on affirme notre amour, mais pas simplement avec les mots, à ce qu'on se retrouve intimement puis qu'on soit ensemble. Ça demande à être rassuré. Et donc, si dans votre histoire, vous êtes en train de traverser une absence, ça va demander à être résolu, cette absence-là. Pour pouvoir affirmer clairement, puissamment cet amour qui est entre vous, que vous continuez à désirer, à chérir. Et vous allez en traverser. Si vous aspirez au mariage, vous aspirez à l'amour, vous allez en traverser des absences comme ça. Tant que c'est dans le domaine du jeu, comme la première partie, ça fait partie de l'amour. Mais lorsque c'est prolongé, ça devient lourd. Il faut être attentif à ça. Mon épouse Esther a besoin de sentir que je ne suis pas absent, loin de son cœur. Et sentir que je suis près d'elle. Ce matin, je voudrais terminer en terminant avec la suite du passage pour faire une application vraiment où je m'adresse à ceux qui rêvent d'amour, ceux qui désirent l'amour, mais un peu comme la jeune fille. Vous n'êtes pas mariés. Regardez ce que le passage dit à la fin au verset 5. « Ne réveillez pas l'amour. Ne jouez pas à l'amour avant d'être prêt à vous y engager. » Verset 5, « Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. » Lorsqu'on lit ce rêve-là que cette jeune fille a fait, on se rend compte que c'est quelque chose, l'amour. Ça consomme. Ça te consomme de l'intérieur, puis ça fait partie de l'amour, c'est quelque chose de beau. Mais elle n'est pas mariée. Pour de vrai, on est dans les personnages fictifs, il n'y en a pas de résolution. C'est dans son fantasme que ça l'est, parce qu'elle est dans un rêve. Et la conclusion après, c'est regardez ce que c'est l'amour. C'est beau, mais l'amour c'est fou, puis ça peut rendre fou. La conclusion, c'est quoi? C'est ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille, avant que ce soit le temps de le faire. Et on vit à une époque où partout, dans les valeurs sociales, dans les médias, il est communiqué aux jeunes gens spécialement, qui sont appelés à vivre l'amour très, très jeune. Toutes les histoires que notre culture nous raconte vous disent que vous devez vivre l'amour maintenant. Mais ça consomme l'amour, et l'amour demande à être vécu dans ce cadre-là du mariage où on va se retrouver et on va résoudre ces absences-là. Et il y a beaucoup de cœurs brisés, il y a beaucoup de dépression chez des jeunes. Je crois vraiment. Parce qu'ils cherchent à réveiller l'amour avant que ce soit le moment. Puis là, ils s'engagent. Et aussi intensément que cette jeune femme-là qui désire l'être aimée dans la nuit, mais sans pouvoir vraiment la voir avec elle, vous désirez cet amour-là, mais ce n'est pas le moment encore. Votre cœur devient troublé, emporté par ça. Votre cœur déraisonne à chercher cet amour-là qui n'est pas permis encore. Et comme cette jeune femme-là, vous en venez à fantasmer l'amour aussi. Mais si Dieu vous accorde la grâce un jour de vous marier, peut-être que vous allez déchanter. Si pendant toutes ces années, vous avez fantasmé l'amour. Puis là, vous allez venir nous revoir après 6 mois, 8 mois de mariage. Ouais, sais-tu, pas exactement ça que j'avais en tête. C'est comme moins que je pensais. Parce que vous avez passé tout ce temps-là à fantasmer l'amour. À vivre des choses dans votre cœur, je termine sur ça, qui ne peuvent pas être résolues. Parce qu'après qu'elle ait vécu ce rêve-là, son cœur désire conduire son amoureux et vivre cette intimité-là. Mais si vous cherchez à marcher avec Dieu, vous savez que ça, c'est pour le mariage. Et donc, vous ne pouvez pas vous rendre à la résolution de cette absence. Vous ne pouvez pas aller vous consoler ensemble. Ou bien vous allez vous engager dans toute une série de jeux d'amour qui vont vous consumer, qui vont vous distraire de ce que vous devriez être en train de faire à ce moment-ci dans votre vie. On va passer à la louange ce matin. Mais j'ai le goût de vous dire, si vous voulez bien vous préparer pour l'amour, commencez par découvrir votre véritable amoureux. Celui qui, je vais le dire comme ça, celui qui vous désire depuis longtemps. La parole de Dieu nous dit que Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Et ça, c'est un amoureux qui désire longtemps. La parole nous dit que je ne peux pas venir à Dieu s'il ne m'attire à lui premièrement. Ça, c'est un amoureux qui est en train de te courtiser. La parole de Dieu me dit que cet amoureux-là a été assez fou d'amour pour toi, qu'il s'est offert en sacrifice sur la croix. Il a donné sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour que ça. Et si un jour tu désires vivre cet amour, puis tu lis le Cantique des Cantiques, puis tu dis « Wow, j'ai hâte. » Si tu vis ça après un an, après 2 ans, après 3 ans, après 10 ans de mariage, c'est parce que tu vas avoir saisi que le plus grand amour de ta vie est celui qui t'aimera comme personne d'autre dans tout l'univers. C'est Dieu. C'est Jésus-Christ et c'est lui qui doit être le premier amour dans ta vie. Et dans ta jeunesse, ton cœur devrait être consacré à découvrir ce premier amoureux, celui qui va venir vraiment emporter ton cœur et qui va en prendre soin véritablement, sans jamais le briser. On va prier ensemble. Éternel notre Dieu, tu nous parles d'amour de manière surprenante. Avec une liberté, Seigneur, qui m'émerveille. On pourrait penser, Seigneur, que marcher avec toi, te connaître, c'est bien des choses bien sérieuses. Fais pas ci, fais pas ça. Mais marcher avec toi, c'est découvrir véritablement notre humanité. C'est découvrir vraiment les relations. C'est découvrir véritablement l'amour, Seigneur. Je remercie, Père, pour ces poèmes amoureux qui célèbrent la beauté, Seigneur, de cette union entre un homme et une femme qui s'engagent, qui se chérissent l'un l'autre, qui me donnent envie de toujours mettre un peu de poésie dans ma relation avec Esther, Seigneur. Qui me rappelle combien c'est important de jouer ensemble à l'amour tous les deux. Puis en même temps, Seigneur, tu me rappelles, tu nous rappelles que l'amour, c'est quelque chose de grand, de gros, qui consomme un cœur, qui rend fou, qui demande à être bien vécu, à être chéri, à être attendu en son temps, en son moment. Oh Seigneur Jésus, je veux te rendre grâce ce matin pour ton amour pour nous. Parce que c'est là auprès de toi, Seigneur. C'est là auprès de toi, Seigneur, que je trouve l'amour qui comble et que je trouve l'amour pour le donner ensuite, Seigneur. Sois béni. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.